Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui scrute la vie des Européens. Terre des feux, triangle de la mort, c'est cette zone située à mi-chemin entre Naples et Caserte qui doit son nom aux milliers d'incendies criminels allumés chaque soir au cours des dernières décennies. Et tout cela pour brûler les déchets le plus souvent toxiques, enterrés illégalement ou jetés dans les champs par la Camorra, la mafia locale qui règne sur ce trafic depuis 20 ans. Selon l'association de protection de l'environnement Legambiente, 10 millions de tonnes de déchets industriels, pour la plupart venus du Nord, ont été brûlés ou enfouis dans cette zone entre 1991 et 2013. Aujourd'hui, la population se réveille alors qu'elle est en train de mourir. C'est le reportage de Mathilde Ovila à Caivano, au cœur du Triangle de la Mort.
Campania Felix, c'est ainsi que depuis l'époque romaine était désignée la campagne napolitaine. Sur cette terre volcanique très fertile, on poussait fruits et légumes qui ont fini sur les tables des rois. Aujourd'hui, cette terre est devenue terre des feux, terre des poisons, triangle de la mort. Il y a 20 ans, la mafia locale s'est en effet lancée dans le trafic des déchets, des montagnes d'ordures déversées ou enfouies clandestinement qui ont rapporté des montagnes d'euros aux criminels. Vincenzo Tosti, retraité, connaît les moindres parcelles contaminées.
Ici, vous voyez cette petite colline ? On dirait que c'est de la terre. Mais non, ce sont des cendres et des résidus de dizaines et dizaines d'incendies. Vu la hauteur, je vous laisse imaginer combien de tonnes de déchets toxiques ont été brûlés ici.
À ses pieds, des monticules d'amiante, des tas de bidons de produits chimiques à moitié carbonisés et à 100 mètres à peine, un champ de fraises passé au peigne fin par la police avant la récolte. L'agronome Crispino Pasquale est complètement désemparé.
Ces dernières années, plusieurs agriculteurs ont porté plainte. Ils ont signalé de nouvelles décharges et on les a menacés. Ils sont allés au commissariat et ils ont été entendus par des magistrats. Mais personne n'est jamais intervenu. C'est ça le fond du problème.
Mais les agriculteurs ont continué de cultiver les terres. Il y a quelques mois, un champ où poussaient des choux-fleurs jaunes fluo a été placé sous scellé et qui sait combien d'autres parcelles où sont cultivés fruits et légumes exportés dans le monde entier sont encore polluées et par quoi ? Luigi Di Costanzo, médecin traitant de Frata Maggiore.
Une sorte de psychose est en train de s'installer. Les patients me demandent, docteur, mais qu'est-ce qu'on peut manger ? Qu'est-ce que je peux acheter ? Et honnêtement, je ne peux pas leur répondre parce que moi non plus, je ne sais pas.
Le repenti de mafia Carmine Schiavone, lui, sait très bien ce que la mafia a enterré dans la région. Déjà en 1997, il prédisait une mort certaine aux habitants dans les 20 années à venir. Et le médecin confirme aujourd'hui l'apparition de signes inquiétants.
Je ne suis ni un scientifique, ni un épidémiologiste, mais je peux vous dire ce que je vois. Il n'y a pas que les cancers qui ont augmenté, mais aussi des pathologies comme les allergies, les maladies, formation grave du fœtus qui contraignent les jeunes femmes à avorter sans parler de l'infertilité.
En 20 ans, le taux de mortalité par cancer a augmenté de 40% chez les femmes et 47% chez les hommes. Mais pour l'actuelle ministre de la Santé italienne, Beatrice Lorenzin, cette tendance est due au style de vie des Napolitains qui fument et boivent trop. Don Maurizio Patriciello, le prêtre de Caivano qui a enterré des dizaines de paroissiens ces dernières années, ne peut que lever les mains au ciel. Son dernier recours.
Nous ici, nous sommes sur la terre du clan des Casalesi, ce clan mafieux tristement célèbre. Sur cette terre, la mafia a joué son rôle, il n'y a pas de doute. Moi je dis très simplement, la Camorra a fait son métier. Nous n'attendons rien d'autre des mafieux que le mal. Mais nous vivons dans un état de droit. L'Italie est une république démocratique. Nous ne vivons pas dans un pays du tiers-monde où règne la loi du plus fort. Nous vivons dans un pays où l'État a le devoir de protéger les citoyens. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été du tout le cas.
Aujourd'hui, dans pratiquement chaque maison de cette terre des feux, il y a au moins un malade de tumeur, dont beaucoup d'enfants. Tina, maman de la jeune Dalia, terrassée à 13 ans par un cancer foudroyant, demande des explications.
Personne n'a encore daigné nous dire, preuve à l'appui, que nous avions tort. Personne n'a daigné nous dire « Oui, vos enfants, nous les avons tués. Nous en assumons la responsabilité et nous sommes prêts à intervenir pour sauver les enfants à venir et ceux qui doivent vivre en respirant et en mangeant tout ce poison. »
Après des manifestations monstres dans les rues de Naples, le gouvernement a fini par reconnaître le problème à demi-mot et promis 600 millions d'euros pour décontaminer la région. Premier soulagement pour les habitants qui restent cependant prudents, comme Vincenzo Tosti.
Aujourd'hui, on nous parle de décontamination, mais nous demandons, nous, citoyens, à pouvoir contrôler ce qui se fera. On veut de la transparence. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le pollueur va retourner sa veste, mettre son costume d'écologiste et se lancer dans le business de la décontamination. Nous devons être très vigilants.
20 ans d'omerta et d'immobilisme coupable laisseront des traces. Pour les géologues et écologistes, le pire est encore à venir. Selon le rapport de l'association Legambiente, certaines nappes phréatiques connaîtront un pic de pollution en 2064.
Outre l'Italie, la Pologne est également pointée du doigt par l'Union européenne. Le journaliste polonais Bertolt Kittel vient d'ailleurs de publier un livre brûlot sur les raisons du mauvais traitement des déchets. Maja Szymanowska.
Le système, comment les déchets font prospérer la mafia. Dès le titre du livre, Bertolt Kittel donne le ton. Le journaliste dénonce dans une grande enquête les manières souvent illégales de recycler les déchets en Pologne. Les propriétaires, syndics de coopératives ou de communautés de logements étaient libres de choisir leur entreprise de ramassage des déchets et la plupart des contrats pour la collecte des ordures ménagères, au cours des dernières années, ont été passés avec des entreprises privées. En 2011, elles comptaient pour 58% des déchets collectés. Comme le démontre Bertolt Kittel, la plupart de ces entreprises ne se contentaient que du ramassage, sans aucune activité de valorisation des déchets. Les moins chers du marché s'en débarrassaient même parfois de manière illégale, c'est-à-dire dans la nature, ou dans des décharges qui sont loin de respecter les normes environnementales, mais ont l'avantage d'être bon marché. Bertolt Kittel a aussi trouvé de fausses attestations de récolte de verre fournies par ces entreprises de ramassage bidon. Le hic, c'est que ces sociétés n'étaient même pas tenues par la loi de prouver qu'elles avaient bien procédé à des collectes. Pour respecter les exigences de l'Union européenne et mettre fin à ces abus, la Pologne a donc fait passer une loi l'été dernier en redonnant la main aux communes pour contrôler la gestion des déchets. La grande révolution du traitement des déchets est en marche, même si elle tarde à se mettre en place et provoque beaucoup de réticences, à cause notamment de l'augmentation significative des charges pour les particuliers. Malgré tout, les résultats du sondage de l'Institut Cebos redonnent de l'espoir. 68% des Polonais évaluent positivement la loi sur les déchets, même si cela doit leur coûter plus cher.
Ils ont longtemps travaillé pour Nokia, du temps de la splendeur de cet ex-numéro 1 mondial de la téléphonie mobile. Mais depuis que l'entreprise finlandaise connaît de grosses difficultés, beaucoup d'ingénieurs, finlandais ou non d'ailleurs, ont décidé de la quitter pour créer leur propre start-up. Une aventure qui n'est pas sans risque. Pauline Curté.
C'est l'heure de la pause café chez Cloudberry Tech, une start-up installée à Helsinki et dirigée par Sotiris Makrigianis. D'origine grecque, il vit en Finlande depuis de nombreuses années et a travaillé pendant plus de 10 ans comme cadre dans la recherche et développement chez Nokia. Mais ça, c'était avant que le champion finlandais de la téléphonie ne connaisse de graves difficultés financières. En désaccord avec la stratégie de son employeur, Sotiris a quitté Nokia l'an dernier pour créer sa propre entreprise qui diffuse du contenu éducatif sur Internet. Pour lui, c'était évidemment un énorme changement, mais un changement nécessaire.
I took 25 of my best developers last summer.
En 2012, j'ai convaincu 25 de mes meilleurs développeurs de logiciels, qui travaillaient aussi chez Nokia, de me rejoindre. Nous avons beaucoup travaillé avec des clients privés et nous avons vite fait un profit. L'an dernier, nous avons même payé 20 000 euros d'impôts sur le bénéfice. Pour mon équipe, c'est un beau succès. Nous venions de perdre notre travail, nous n'avions pas de gros capital, mais nous avons réussi à nous regrouper et à nous payer de bons salaires. Construire cette entreprise, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivé.
Actually paid ourselves good salaries and make a profit.
Sotiris Makrigianis n'est pas le seul ex-Nokia à voler désormais de ses propres ailes. D'après des statistiques du gouvernement finlandais, près de 20% des anciens employés du géant des télécoms auraient, suite à leur licenciement ou à un départ volontaire, créé leur propre entreprise. Cette stratégie a d'ailleurs été encouragée par Nokia, qui a mis sur pied un programme d'aide à ses anciens employés, appelé Nokia Bridge. À la clé, une aide de 20 000 euros par personne souhaitant fonder sa propre entreprise, en plus des primes de licenciement, et un droit pour les nouveaux entrepreneurs d'utiliser des secrets de fabrication développés chez leurs anciens employeurs. Avec quatre autres collègues de chez Nokia, Kimmo Saarela a bénéficié du programme pour créer l'entreprise Trelab, qui fabrique des appareils de localisation à distance. Il ne tarit pas d'éloges sur ce coup de pouce.
Nous avions le choix, rester chez Nokia mais quitter la Finlande, ou alors quitter Nokia et monter notre entreprise. Nous avions tous une famille, des enfants, et nous voulions donc rester en Finlande. Or, avec ce que Nokia nous proposait, il était très facile pour nous de prendre la décision de fonder une nouvelle entreprise. Sans le soutien financier, les formations dispensées par Nokia, le droit à utiliser des connaissances développées chez Nokia, nous n'aurions sûrement pas été capables de le faire.
En Finlande, 400 entreprises sont nées grâce au Nokia Bridge. Mais tous les ex-employés de Nokia n'en ont pas profité. Certains sont par exemple partis trop tôt, avant la création du programme. Pour eux, pas toujours facile de s'en sortir. C'est le cas de Tiina Zilasius. Elle a travaillé pendant 6 ans dans la relation client chez Nokia, avant de quitter l'entreprise en 2007. Son but, c'était de devenir sa propre patronne, dans un cadre plus flexible que celui d'une grosse entreprise. Après avoir lancé 2 autres start-up, elle est à la tête aujourd'hui de Gajari Studio, un créateur de jeux pour smartphones. En sortant de chez Nokia, elle a dû faire de gros efforts pour être prise au sérieux.
Quand on vient de chez Nokia et que l'on crée son entreprise pour la première fois, il faut faire ses preuves. Les investisseurs pensent que vous êtes l'esclave d'une grosse entreprise, que vous n'êtes pas capable de penser par vous-même, d'avoir des idées originales, de travailler seul. Mon premier travail a donc été de les convaincre que ce n'était pas le cas.
En Finlande, entrepreneurs comme investisseurs essaient donc de tourner la page Nokia. La plupart des anciens employés reconvertis en chefs d'entreprise disent ne pas regretter leur choix. Mais ils pensent parfois avec nostalgie aux anciens succès de la firme. Sotiris Makrigianis, lui, regrette le confort d'un emploi stable dans une grosse entreprise.
Quand j'étais à Nokia, j'avais des budgets énormes. Il y avait un flot d'argent constant, on ne devait pas s'inquiéter des ventes. La différence ici, c'est qu'il faut s'inquiéter de tout en même temps. La qualité des produits, le niveau des ventes. À Nokia, on ne devait s'inquiéter que d'une chose, et c'était de construire des bons téléphones.
Beaucoup de sujets d'inquiétude donc pour ces nouveaux entrepreneurs, car en Finlande, la création d'une entreprise n'est pas synonyme de succès garanti. Selon des études du gouvernement finlandais, une start-up sur 3 créée en 2011 n'existait plus un an plus tard.
Eh oui, happy, les Allemands le seraient bien, alors qu'ils sont connus pour un esprit plutôt sérieux, alors que les Français, eux, seraient les plus pessimistes. Publié par l'hebdomadaire de référence Der Spiegel, un récent sondage indique que 80% des Allemands s'estiment satisfaits de la situation de leur pays. Un effet inattendu de la crise économique qui frappe le continent européen. Julien Michaud nous appelle de Berlin.
C'est du jamais vu ou presque. Les Allemands se déclarent être satisfaits. Précisons d'emblée que le sondage réalisé par l'Institut Infratest d'IMAP porte sur la situation économique du pays. Chez les 19-29 ans et les plus de 60 ans, le taux de satisfaction grimpe même jusqu'à 85%. Avec un taux de chômage toujours en dessous des 7%, des prévisions de croissance réjouissantes ou encore un budget annoncé à l'équilibre l'année prochaine, une première depuis 1969, il y a en effet de quoi voir venir. Mais ce qui se cache derrière ces chiffres, c'est surtout le sentiment de s'en tirer mieux que les autres. Comprenez les pays du sud de l'Europe en empêtrés dans la crise, Grèce en tête. Invités à comparer leur situation à celle de leurs voisins européens, 90% des sondés s'estiment heureux. Une satisfaction généralisée à mettre en perspective avec le discours d'Angela Merkel, une chancelière qui n'a de cesse de répéter que c'est sa politique qui a permis à l'Allemagne de passer au sec la tempête de la crise. Merkel et son gouvernement sont d'ailleurs toujours aussi populaires qu'à leur début, une harmonie qui se retrouve donc dans la bonne humeur des Allemands. Pourtant, pour Der Spiegel et également d'autres titres de la presse, le pays tend plutôt à se complaindre dans l'immobilisme. Les bonnes statistiques macroéconomiques cachent en effet des réalités beaucoup moins roses. L'explosion du nombre de travailleurs pauvres, des écarts de revenus entre plus riches et plus démunis qui n'ont jamais été aussi élevés, et la bombe à retardement des baby-boomers approchant de la retraite dans un pays qui ne fait pratiquement plus d'enfants. Il faut dire que la grande coalition entre conservateurs de la CDU-CSU et les sociaux-démocrates du SPD laisse peu de place aux dissonances et autres débats contradictoires.
Des notes dans les oreilles pour terminer l'émission avec le choix pop de Vincent Teval.
Je vous propose aujourd'hui de découvrir le premier maxi d'un jeune Finlandais, Jaakko Aino Kalevi, un garçon qui vit à Helsinki et était jusqu'à présent conducteur de tramway à temps partiel. Il est possible que le succès naissant lui permette de se consacrer pleinement à la musique. Jaakko Aino Kalevi est en effet devenu le premier artiste scandinave à signer un contrat avec le prestigieux label anglais Domino Records, celui-là même qui a conduit vers la gloire Franz Ferdinand ou Anna Kalvi. On verra ce que l'avenir réserve aux Finlandais qui se produit sur scène avec un batteur et une saxophoniste. Ses chansons y gagnent en épaisseur. Sur disque, elles sont plus fragiles et d'évidence très influencées par les années 80.
C'est la fin d'Accent d'Europe, à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur Facebook. Restez à l'écoute dans une poignée de secondes, les infos.